Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière émission de l'année 2017 préparée par Laure Grand Besançon et Camille Maty, réalisée par Hélène Bizio et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Philippe Duclos. La gourmandise ce matin est une attraction géographique en vogue au 19e siècle et répondant au nom de Géorama. En 1822, Charles-François-Paul de Langlard propose de représenter la Terre à l'intérieur d'une grande sphère creuse dans laquelle le curieux pourrait avoir vue sur la totalité du monde. Le globe concave mesure 13 mètres de diamètre et l'on accède à son panorama intérieur par des escaliers qui sont à eux seuls fascinants. Un second spécimen est réalisé avec la collaboration de l'architecte Pierre Magloire Châtelain en 1825 et installé sur le boulevard des Capucines à Paris où il fait sensation. Imaginez une terre peinte à l'huile dont vous embrasseriez du regard et en quelques secondes la totalité. Même aujourd'hui, l'idée est propice au songe. Nous mettrons un lien renvoyant vers une maquette sur le site de l'émission. Notre apothicaire de l'âme est un dessinateur et auteur de bande dessinée qui s'est illustré dans plusieurs genres et se consacre surtout ces dernières années à une épatante bande dessinée documentaire en excellant dans l'art de l'immersion. Notre homme s'est plongé dans les coulisses du quotidien Libération, dans celle de la campagne présidentielle de François Hollande en 2012 et a également suivi les premiers pas de l'ancien président à l'Élysée. Créateur de la désopilante série Super Murgeman, mettant en scène un héros armé de sa propre bile, il compte parmi ses signes particuliers le fait d'affubler ses personnages de l'onomatopée Snirfle, mais ça se prononce pas comme ça, en particulier Gérard Depardieu qui l'a suivi pendant 5 ans un peu partout, expérience qu'il relate dans Gérard 5 années dans les pattes de Depardieu publié chez Dargaud en mars dernier. Celui qui par aversion pour le service militaire occupant un poste d'objecteur de conscience pendant 2 ans au musée de la bande dessinée à Angoulême, prépare son premier long métrage. Autre fait que je tiens à souligner dans cette introduction, il a adapté Lovecraft et aussi Jules Verne en bande dessinée, plus précisément la nouvelle Une fantaisie du docteur Ox aux éditions Gallimard, sur le site desquels on peut lire, titre recommandé par le ministère de l'Éducation nationale en classe de 5e. Et ça, je le dis au premier degré, c'est vraiment chic. Bonjour Mathieu Sapin.
Bonjour.
Riyad Satouf, avec lequel vous avez longtemps partagé un atelier, dit de vous « C'est un individu extrêmement positif, très rarement déprimé, mélancolique ou énervé. Il est vraiment constant, donc très agréable à fréquenter. » Donc je me demande quelle va être la réponse à la première question de l'émission. Quel rapport entretenez-vous avec la mélancolie ?
Ah, moi j'aime bien la mélancolie. Bah ouais, c'est assez... Je ne sais pas si ça s'accompagne d'un regard vers le passé, mais moi, j'aime bien me souvenir des moments quand j'étais enfant. J'ai eu une enfance très heureuse, et donc c'est un terreau qui me est très fertile pour moi pour écrire des histoires.
Donc c'est plutôt une sorte de nostalgie puisque vous pensez à des moments qui ont existé.
Donc nostalgie, mélancolie. C'est pas pareil.
Nostalgie, c'est plutôt spatio-temporel, et puis souvent ça existe, alors que mélancolie, ça peut être un deuil sans objet ou quelque chose de plus diffus, plus métaphysique.
Pour moi, la mélancolie, c'est pas désagréable. Quoi.
D'accord. Ouais. Vous n'êtes jamais submergé par des accès de tristesse épouvantables ?
Alors, pas depuis longtemps, ça manque un peu, mais... Mais non, je trouve qu'il y a quelque chose de. Bah évidemment, faut pas que ce soit. Pour moi, la mélancolie, elle est intéressante si elle est passagère. Après, si c'est vivre dans la mélancolie toute sa vie, je sais même pas comment c'est possible. Mais non, c'est bien par moment d'être, de regretter des choses et puis de penser à. Ouais, non, je. Enfin, pour moi, c'est pas du tout négatif. Quoi.
Vous avez l'air assez apaisé. Enfin, je vous connais depuis 5 minutes.
Hein. Ouais. Non, ça bouillonne hein, à l'intérieur, mais oui, non.
Mais du côté de la vie, de la pulsion de vie, pas du côté mortifère, de la complaisance.
Ah non, bah non.
Vous n'êtes pas un héros romantique du 19e.
Alors, je pense que quand j'étais ado, je l'étais.
Comme beaucoup d'ados.
mais en avançant en âge, non, disons que je cultive volontiers l'ironie et puis le sourire amusé, ouais.
Alors dans quelques instants, Mathieu Sapin, vous allez convoquer le tandem Pierre Richard et Gérard Depardieu, un certain Super Murgeman, de la patience Spinoza, Jérôme K. Jérôme, Stupéflip, ouais. Le chanteur Jerry Arnold et l'artiste Pipi le Tiriste, juste après le titre anglais Sunflower de Rex Orange County.
Oh, I want to know where I can go. When you're not around and I'm feeling down, so won't you stay for a moment so I can say I need you so, 'cause right now you know that nothing hears me and I'm obsessed with you. Then I fell to the ground, and she smiled at me instead.
I don't wanna see you cry. You don't have to feel this emptiness. She said, I love you till the day that I die. Well, maybe she's right. Feel like I'm not me, and to be honest, I don't even know why I let myself get down in the first place. To get yourself to sleep and dream a dream of you and I. There's no need to keep an open eye. I promise I'm the one for you. Just let me hold you in these arms tonight. I'm lucky to be me. You can see it in my face. Back when I fucked my shit up too many times, why would I let myself get down in the first? Told me that I didn't have to cry. Said I didn't need to get down or feel empty inside. And then told me that she'll love me for as long as she's alive. And well, maybe she's right. 'Cause I hate it when I feel like I'm not me. See, I honestly don't even know why. I honestly don't even know why.
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Mathieu Sapin et d'un tandem mythique.
Vous vous souvenez qu'avant de vous envoyer au Mexique pour faire votre enquête, je vous avais parlé de la malchance de ma fille.
Oui.
Eh bien, c'est en partant de là que M. Meyer a mis sur pied une théorie qui peut paraître absurde à première vue, mais... Enfin, allez-y, Meyer.
D'après moi, la seule façon de retrouver la petite, c'est de confier l'enquête à quelqu'un d'aussi malchanceux qu'elle. Un type comme vous ne peut pas la retrouver, parce que vous êtes normal. Tandis qu'un malchanceux qui va glisser sur les mêmes peaux de banane qu'elle, se prendre les pieds dans les mêmes tapis, peut éventuellement retrouver sa trajectoire.
Je peux vous parler de ça seule une seconde?
Qu'est-ce que c'est que ces conneries?
1981, La chèvre de Francis Weber avec Pierre Richard en François Perrin, comptable crâneur et malchanceux, et Gérard Depardieu, le détective Campana, un privé rationnel et un peu consterné par son comparse. On entend une partie du synopsis là, est-ce que vous pouvez rappeler brièvement ce qui se passe par la suite?
Et donc ils partent tous les deux à la recherche de la fille du directeur qui les emploie, et Pierre Richard, alias Perrin, malgré sa, enfin, grâce à sa malchance, retrouve la trace de la fille, et peu à peu, donc Depardieu, alias Campana, qui l'accompagne, finit par être, enfin, au début, donc, il n'y croit pas du tout à cette théorie, puis peu à peu, il est obligé de se rendre à l'évidence, après, c'est un tandem comique, donc c'est surtout des situations souvent absurdes, mais ce qui marche très très bien, en fait, ce qui est étonnant dans ce film, c'est que Depardieu ne parle très peu. Donc c'est pas évident d'avoir un extrait sonore du film, parce que ce qui est très drôle, c'est son regard, c'est ses expressions quand il voit et qu'il écoute donc Pierre Richard. Et les deux fonctionnent à merveille. Ouais.
Et d'ailleurs, Depardieu, dans ce film, il est un peu en mode mineur.
Ouais.
On pourrait presque dire que Pierre Richard lui vole la vedette, mais c'est vrai que son regard est tellement intense à Depardieu, on se délecte du changement de regard, il est atterré.
Bah, c'est vraiment le clown triste et l'auguste, et Depardieu, là, c'est le clown triste, ouais.
C'est aussi un film où quand même tous les Mexicains au fin fond du Mexique parlent avec un accent français parfait de l'Académie française.
Oui, ça c'est le. Oui,
c'est le doublage.
Les joies du doublage. C'est pas très réaliste hein, comme film, mais non mais ça marche toujours. Enfin moi je l'ai revu récemment et ça marche.
Il y a un côté aussi un peu de dessin animé, bande dessinée dans ce film. Je pense notamment...
Tintin, ouais. Ça fait très Tintin, ouais, tout à fait. Ouais.
Ou la scène où Depardieu attrape un portier par les trous de nez.
Ouais.
Enfin voilà, c'est très absurde, ouais, très cartoonesque.
Ouais, alors c'est amusant parce que là, par rapport à la bande dessinée que j'ai fait sur lui, on compare souvent Depardieu à Obélix, évidemment, puisqu'il l'a joué. Et moi, je trouve, si on parle de bande dessinée et de Depardieu, il me fait plus penser au capitaine Haddock. Je trouve qu'il a quelque chose vraiment du capitaine Haddock, ce côté bourru, qui peut être très emporté et en même temps avoir des moments un peu lyriques, le côté grand voyageur, le fait qu'il ait à la fois une vie de bourlingueur, il va aux quatre coins du monde et puis il a un château. Enfin, non, il y a plein de points communs. On pourrait aller beaucoup plus loin. Je pense même qu'il y a une thèse à faire.
Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on le ressent dans Gérard, 5 années dans les pattes de Depardieu, votre bande dessinée, dans laquelle vous relatez l'expérience où vous l'avez suivi pendant 5 années. Vous avez déjà interrogé Depardieu.
Moi, dans le rôle de Tintin, hein, vous l'avez
oui,
compris.
Oui, je l'ai compris, mais ça n'a pas l'air de vous plaire et je n'en dis pas plus pour les auditeurs, il faut lire la BD. Vous l'avez interrogé sur ce film, sur La chèvre de Depardieu, parce que parfois il parle comme ça de ses films passés.
Alors, moi, je ne l'ai pas interrogé parce que j'ai su très vite qu'il détestait parler de ses films. Mais il se trouve que ma femme et ma belle-sœur sont fans de La Chèvre. Et j'ai eu l'occasion de présenter donc Gérard à ma belle-sœur. Et donc, c'était lors d'un dîner. Et avant le dîner, j'ai dit à ma belle-sœur, écoute, juste une chose, il faut que tu parles à Gérard de ses films. Il déteste ça. Surtout les films passés, ça l'intéresse pas. Lui, il veut, passer une soirée normale. Donc, ne lui parle pas de ses films. Donc, elle me dit oui. Et on arrive dans le restaurant, et là, elle revenait tellement pas d'être en face de Depardieu qu'elle se met à crier. En plus, il voulait évidemment qu'on soit discret, mais elle se met à crier « Gérard, je vous adore, j'ai vu tous vos films, je connais toutes les répliques de La Chèvre par cœur !» Et là, il a pété un plomb. Ça commençait très très mal.
Parce que dans votre bande dessinée, il est assez imprévisible, ouais. Et je pense à une scène assez drôle, où on l'accueille pour un gala, je ne sais plus lequel, dans un pays, je crois que c'est en Russie, ouais. Et les gens ont cru que c'était une bonne idée de faire en fait un mélange de tous ses plus grands rôles au cinéma sur un écran qu'on lui projette alors qu'il a horreur de se voir et il est absolument consterné.
Non, il l'exprime pas comme ça parce que là il était obligé d'un peu de faire bonne figure, mais moi je savais que effectivement c'est quelque chose qu'il déteste faire, c'est se regarder ses films et puis se complaire dans une espèce de il déteste ce truc narcissique quoi. Et donc, pour moi, c'est la torture maximale pour un acteur comme Depardieu qui a fait 250 films. On l'installe dans une salle, on ferme la lumière et on le projette des extraits pendant un quart d'heure de tous ses films avec que des gros plans sur lui. C'est affreux.
Vous l'avez accompagné sur quelques tournages.
Oui.
Vous avez aussi dessiné le making-of du film Gainsbourg, vie héroïque de Johann Sfar.
Oui.
C'était Feuille de chou, journal d'un tournage.
Oui.
Vous êtes passé devant la caméra, vous, dans le road movie documentaire sur les salles de cinéma indépendantes Macadam Popcorn de Jean-Pierre Pozzi. Vous êtes passé derrière la caméra avec un court-métrage Vengeance et Terre battue.
Oui, tout à fait.
Et là, vous êtes en montage de votre premier long métrage cette année, c'est Le Poulain, sur le milieu de la politique avec Alexandra Lamy et Finnegan Oldfield. Un petit mot sur ce film ?
Oui, donc c'était une aventure nouvelle, puisque c'est j'avais fait effectivement un court métrage il y a 3 ans, mais là c'est la première fois que je passais au grand format. Et moi j'ai adoré faire ça. Après, c'est difficile d'en parler étant en montage, parce que les choses pour l'instant sont encore très... fluctuante, mais c'était, moi j'ai eu une chance folle, quoi, d'être avec des gens super emballés, super qui m'ont vraiment ils sont vraiment allés dans le sens du film que je voulais faire. Et alors c'était un peu étrange, parce que c'est un film qui décrit une campagne présidentielle, donc il y avait aussi des choses qui évidemment étaient inspirées de séquences que j'avais pu observer. Donc c'est vraiment une fiction, mais qui par moments flirte avec une forme de réalisme un peu documentaire. Et voilà, il y a Alexandra Lamy et Finnegan Oldfield, étaient très inattendus, enfin vous verrez, dans des rôles assez différents de ceux qu'on connaît.
Le scénario est écrit en collaboration avec Noé Debré.
Oui.
Et justement, vous qui avez l'habitude d'être seul sur votre table à dessiner, il n'y a pas un côté agaçant d'un coup dans le cinéma où tout de suite c'est une grosse machine, ça dépend de plein de gens, on n'a plus du tout les pleins pouvoirs?
Ah bah agaçant non, au contraire, c'est ça qui m'a plu, parce que quand on est tout seul avec soi-même, au bout d'un moment c'est un peu lassant, quoi. C'est-à-dire que les idées deviennent un peu les mêmes, c'est très difficile de se renouveler. Donc c'est pour ça, entre autres, que je me suis mis à faire des BD documentaires, parce que là, il y avait tout d'un coup une matière nouvelle que j'avais sous les yeux. Et puis dans le cas du cinéma, si on est bien entouré, non, c'est génial. Après, si effectivement on s'entend pas avec les personnes et qu'on a des choix, des idées différentes, ça peut être compliqué. Mais là, je serais vraiment mal placé pour me plaindre, parce qu'en plus, en tant que réalisateur, on fait tout pour vous être agréable et pour faire les choses que vous avez envie de faire. Donc c'est presque un peu comme un rêve de gosse, non, c'est génial.
Chers amis, ce soir, je vous parlerai de l'eau minérale, de l'eau ferrugineuse. L'eau ferrugineuse, comme son nom l'indique, contient du fer. Et le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. L'alcool, non. L'eau ferrugineuse,
oui.
1950, Bourville, dans le sketch L'eau ferrugineuse ou la causerie du délégué de la Ligue anti-alcoolique, écrit par Roger Pierre, c'est pour aborder l'activité qui vous met en joie, Mathieu Sapin, non pas de vous mettre dans l'état de Bourville, mais de dessiner et vous préciser Super Murgeman, par exemple. Vous avez vu la subtilité de nos archives.
Oui, oui, je cherchais, ça y est, j'ai compris.
Le lien.
Ouais.
Alors, Super Murgeman, c'est votre premier personnage.
Ouais.
Vous l'avez écrit en 92 aux Arts Déco de Strasbourg.
Tout à fait.
Dans le petit magazine que vous aviez lancé.
C'est pas moi qui l'avais lancé, mais j'avais participé à un magazine d'école, comme ça se fait souvent là-bas, enfin dans les écoles d'art. Et puis, à l'époque, j'avais été frappé par la lecture d'une bande dessinée américaine très très rétro des années 40 qui s'appelle Le Fantôme.
De Lee Falk.
Voilà, Le Fantôme du Bengale, c'est un peu genre Mandrake. Et lu aujourd'hui, c'est très amusant parce que c'est complètement rétrograde, réac, enfin tout ce qu'on veut. Les femmes sont que des belles plantes un peu passives. Les hommes sont tous soit des héros très positifs, soit des méchants machiavéliques un peu difformes. Et donc, pour moi, c'était assez facile et amusant de reprendre un peu ces ingrédients et puis de juste les déplacer aujourd'hui, en fait, de les mettre dans notre époque. Et donc, Super Murgeman, c'est un super-héros qui, lui, est convaincu d'être dans cet état d'esprit très...
De justice.
Ouais, de justice au premier degré.
De grandeur.
Sauf que les gens qui croisent sont... C'est un peu Don Quichotte, vous voyez. Et donc, les gens qui croisent sont, eux, beaucoup plus duplices.
Et alors, il protège une île des mers du Sud. Il est accompagné du chien Sultan,
oui,
que j'affectionne beaucoup parce que c'est un peu le contraire de Milou en termes d'aide à son maître.
Oui.
Et puis, c'est un personnage qui provoque une certaine tendresse chez le lecteur, puisque tout le monde se moque de lui tout le temps. Même sa femme, ouais, même le sorcier du village.
Non, mais alors, après, je sais pas, il y a sans doute une psychanalyse à faire sur cette BD, mais c'est très barré, hein, c'est complètement de l'humour absurde, et lui, il traverse ça, droit dans ses bottes, j'allais dire, il est complètement imperméable au second degré, en fait. C'est-à-dire que toute l'île et tous les personnages sont, à plusieurs épaisseurs et sont tout fond. Oui, je disais Duplice. Ça se dit Duplice ? On peut dire Duplice ? Enfin, en tout cas, hypocrite. Et lui, par contre, il est vraiment. Il est premier degré, quoi.
Vous préparez un nouvel album ?
Oui, je prépare un nouvel album avec où je réunis des histoires que j'avais faites il y a quelques temps. Disons qu'à chaque fois que je réutilise ce personnage, il y a un côté. Je ne sais pas si c'est cathartique le mot, mais libérateur, en tout cas. Qui fait que je m'amuse toujours avec lui, mais il a vieilli, hein, parce que maintenant ça fait un moment que je l'ai créé.
Non, il est atemporel. Voilà. Vraiment, je vous le certifie. Vous dessinez à l'ordinateur, je crois.
Ah, ça dépend.
J'avais lu une petite bande dessinée autobiographique de vous.
Récemment, j'utilise effectivement ce qu'on appelle une tablette Cintiq. Mais c'est très pratique, mais ça m'arrive aussi de dessiner sur papier, ça dépend des projets en fait.
Tommy Ungerer, que vous affectionnez, je crois, était content de ses dessins vers ses 75 ans. Et
ah ouais.
Et vous,
ouais. Quel âge il a ? Plus de 90 ans, hein, je pense. Moi, je regarde pas tellement les dessins que je. J'ai beaucoup de mal à assumer les dessins que j'ai faits encore le mois dernier, donc. Non.
Donc c'est un moteur finalement.
Oui, bah heureusement, parce que sinon, si je me disais c'est bon, là j'arrête, j'ai fait le dessin parfait, j'ai plus besoin d'avancer. Non, au contraire, et puis je suis très complexé par mon dessin, parce que j'ai pas un dessin du tout. Virtuose. Au contraire, moi, j'essaye de faire, d'exprimer les choses de la manière la plus directe possible, la plus immédiate, simple. Ça ne veut pas dire, simpliste. J'étais donc dans une école à Strasbourg, les Arts Déco, qui forme beaucoup à l'illustration pour enfants. Et donc, j'ai été beaucoup formé dans ce registre-là. Et j'ai fait beaucoup d'illustrations pour enfants à mes débuts. Et donc aujourd'hui, je pense que ce qui est intéressant dans mon travail, c'est justement de mélanger ce côté enfantin avec un propos qui l'est beaucoup moins. Mais ce qui me surprend, c'est que j'entends souvent des réactions de lecteurs qui me disent « Ah, ma fille a adoré ta BD sur Gérard ou ta BD sur la politique ». Donc malgré tout, les enfants continuent à lire, même si c'est pas du tout le public... le premier public auquel on pense pour ces livres-là.
Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Ouais. Il y a toujours un humour absurde, assez délectable. Quand vous traitez de sujets sérieux. C'est pas frustrant d'attendre la fin d'un album pour vous mettre à un autre, puisqu'il y a une sorte de temps long, incompressible. Quand on a des idées en cours, j'imagine que parfois vous êtes en pleine bande dessinée, puis vous vous dites « Oh, j'adorerais parler de ça », et bah, il faut attendre.
Alors là, vous touchez du doigt un problème, ou je sais pas si c'est un problème, mais en tout cas quelque chose qui me caractérise, c'est que j'ai travaillé donc longtemps en atelier avec notamment Johan Sfar, et lui et moi on a du mal à faire une seule chose en même temps. Et donc moi je fais plusieurs projets en même temps, et c'est même un peu schizophrène au bout d'un moment. Donc j'attends pas quand j'ai envie de dire quelque chose, je trouve un espace pour et donc pendant très longtemps j'étais toujours en retard, parce que dès que j'avais terminé un projet, celui d'après était déjà en retard puisque je l'avais commencé. Et c'est depuis très récemment que j'ai décidé, dans un grand élan courageux, de fermer le robinet et d'attendre, de laisser volontairement les choses mûrir et avant de voilà. Donc pour l'instant, je suis off.
Alors justement, votre citation Becky fait l'éloge de la patience. C'est tout vient à point à qui sait attendre.
Ouais.
Vous l'avez vérifié, vous savez attendre, Mathieu Sapin.
Ouais, je suis assez impatient. En général, mais j'ai constaté que parfois il faut laisser laisser faire le temps. Et non, bien sûr. Alors, ce qui m'a beaucoup appris, notamment la patience, c'est quand j'ai commencé justement à essayer de raconter le réel, parce que dans ce cas-là, on n'est plus moteur, on est spectateur, et donc il faut attendre le bon moment, attendre que les choses se présentent. Et alors, en plus, quand on se met à vouloir faire une bande dessinée sur l'Élysée, comme c'était mon cas. Donc en 2014, il s'est passé un an entre le moment où j'ai fait les premières démarches et le moment où on m'a dit « Ok, Donc, dans ces cas-là, il faut relancer, il faut arriver à être, comment dire, insistant sans être lourd. C'est la nuance.
C'est le kéros, l'opportunité, ouais. Le bon moment qui se présente.
Voilà.
Bon, pour ceux qui n'y arrivent pas, il y a cette définition d'Ambrose Bierce dans le Dictionnaire du Diable. Patience, forme mineure de désespoir, déguisée en vertu.
Wow.
C'est un peu rassurant ou pas du tout, je sais pas. Dans un instant, on parlera de puissance, de joie et de passion triste, juste après la reprise du chant haïtien « N'en font bois » par Mélissa Lavaux, ça veut dire « au fond des bois ». Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de Mathieu Sapin.
Il faisait des dessins, on a des dessins, non, on a une reproduction, on a des dessins de lui très curieux. La vie de Spinoza, c'est une chose obscure, où il s'était dessiné lui-même, il dessinait le soir, comme ça, quand il avait bien travaillé. Il s'était dessiné lui-même sous forme d'un révolutionnaire napolitain, qui était connu à l'époque. Et il avait mis sa propre tête. Il s'était dessiné en révolutionnaire, c'est bizarre.
Petite pépite trouvée par Hélène Bizio, Gilles Deleuze, à propos de l'auteur de vos onguents philosophiques, Spinoza. Vous avez indiqué comme remède ses livres. Je n'ai pas pu tout lire, je me suis concentrée sur l'éthique et sur un petit ouvrage de Deleuze qui est une bonne entrée en matière, c'est Spinoza, philosophie pratique aux éditions de Minuit. Et juste avant l'émission, vous m'avez dit, oui, vous savez, moi en fait, j'y connais rien, j'ai mis ça comme ça, et là je vous ai détesté. Parce que vous avez gâché toute ma semaine.
Mais oui, non, il fallait commencer par le livre d'Irvine Yalom qui s'appelle Le problème Spinoza.
Ah oui. C'est plus accessible.
Voilà.
Parce que Spinoza, il y a quand même, faut s'armer de patience, il y a un vocabulaire à acquérir pour le comprendre.
Oui, oui.
Bon, bah alors maintenant, débrouillez-vous, hein, Mathieu Sapin, vous avez choisi Spinoza.
Non, moi, ce que j'aime bien, enfin, ce que je comprends vaguement de ses écrits, c'est que, si je résume à très très grands traits, il y a, en gros, pourquoi s'en faire ? Parce que il y a des choses sur lesquelles on n'a pas prise, et dans ce cas-là, on ne peut rien y faire. Et donc, c'est la fatalité, il faut accepter. Et il y a des choses sur lesquelles on a prise, et là, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on peut agir dessus. Et donc faire le nécessaire, tout ce qui est possible pour agir dessus. Donc une fois qu'on a, comment dire, examiné ça, il y a plein de problèmes dans l'existence qui on se dit, j'y peux rien, quoi.
C'est assez stoïcien, finalement, ça.
Ouais, sans doute, mais en tout cas, ça... Moi, souvent, des fois, je suis frustré, comme tout le monde, par des choses qui me dérangent, qui me posent problème, mais je me rends compte que... Ce n'est pas de mon ressort. S'il pleut aujourd'hui et que j'ai pas envie qu'il pleuve, j'y peux rien et je peux rien faire contre. Donc, il faut, s'adapter.
Alors, il y a aussi une sorte de vocabulaire de super-héros dans Spinoza. Ouais. Bon, le fait de persévérer dans son être, on parle de puissance, on parle d'idées de combinaison pour accroître sa puissance, comme une évolution de Pokémon ou la force dans Star Wars, vers laquelle on peut toujours choisir de se diriger, la lumineuse ou l'obscure. Il y a cette idée. Enfin, qui est une idée aussi qui peut s'avérer terrifiante. En gros, soyez clément, cher spinoziste, ne m'en voulez pas. On fait une rencontre. Cette rencontre, on va se combiner à elle, on va composer avec elle. Si elle accroît notre puissance, notre désir, notre propension à l'action, elle est positive. On peut aussi composer avec des énergies qui vont ne pas aller avec nous, comme une sorte d'allergie, un poison. Et dans ce cas-là, ça va nous affaiblir, on va être dans l'impuissance. Et alors, quand on sait ça, dès qu'on se dispute avec quelqu'un, on se dit « Ouh là là, non, vraiment, il faut vraiment pas que je compose avec cette personne parce que je n'accrois pas ma puissance à ce moment-là. » Et on arrête de fréquenter les gens.
Ouais, en tout cas, Spinoza me fait l'effet de quelqu'un qui était quand même très pacifiste et très, humaniste. Mais il y a aussi chez lui beaucoup une notion de volonté. Enfin, c'est comme quelqu'un qui s'est élevé contre sa communauté, il y avait beaucoup de courage dans ses prises de position, parce que en gros, il connaissait la Bible par cœur et la Torah, et il se rendait compte qu'il y avait quand même carrément des paradoxes et des contradictions factuelles. Et cette simple démarche lui a valu d'être excommunié. Mais donc, en plus, à une époque, on plaisantait pas beaucoup avec la religion, quoi. Donc, chez lui, il y a cette espèce de détermination que je trouve, moi, très positive.
Et ce désir de persévérer dans son être qui est le contraire de la dépression et de la mélancolie.
Exactement. C'est là où je voulais en venir.
Bah oui, bravo. Mais il est contre la haine du monde et la haine de soi.
Voilà.
Alors, vous avez fait un an de philosophie.
Ouais, parce que j'ai raté mes concours aux écoles d'art après mon bac. J'étais très sûr de moi et en fait, je me suis bien gamellé. Et du coup, pour faire quelque chose de ma vie, je me suis inscrit en philo et c'était pas du temps perdu. J'y allais un peu en touriste, hein, si on est honnête. Mais en même temps, la philo, c'est vraiment, vu de l'extérieur, on a l'impression qu'on perd son temps, alors qu'en réalité, au contraire, on se connaît tout à toi-même, quoi. Ça aère les méninges, on réfléchit et... Et moi, c'était très agréable. J'ai voulu continuer, mais ça, c'était très difficile de faire la philo et en même temps une formation artistique. Et à un moment donné, j'ai dû choisir. Mais j'ai toujours on parlait de nostalgie tout à l'heure, le regret de ne pas avoir été plus loin dans la philo.
Alors, pour aborder Spinoza, Irving Yalom, pour commencer.
Oui, c'est très facile. C'est un roman qui met en parallèle... les débuts de Spinoza à Amsterdam en 1650. Et puis, il y a une partie, un montage alterné avec une partie qui se passe pendant le nazisme, qui raconte la découverte du spinozisme par un nazi. Enfin, c'est très bien fait.
Je laisse le héros du Rocky Horror Picture Show nous amener vers le remède suivant.
Oui.
There were four of us. George and William Samuel Harris and myself and Montmorency. We were sitting in my room, smoking and talking about how bad we were. Bad from a medical point of view, I mean, of course.
With me, it's giddiness. It's giddiness with me, too.
L'adaptation du roman de 1889, Trois hommes dans un bateau, de l'écrivain anglais Jérôme K. Jérôme, par Tom Stoppard en 1975 pour la BBC, avec Michael Palin et Tim Curry. On entend le début, je vous laisse nous dire de quoi il s'agit.
Mais ça, c'est le Rocky Horror Picture Show?
Non, c'est Tim Curry, vous savez, le héros du Rocky Horror Picture Show.
Oui, d'accord, je ne comprenais plus rien. Là.
Non, c'est vrai, mais c'est moi, je n'ai pas été assez claire. Je vous demande de me pardonner.
Non, oui, c'est un roman là, qui m'a été offert récemment par Finnegan Oldfield.
Qui est dans qui votre dans film, prochain film.
Qui est très réjouissant et qui raconte le projet de trois Anglais de remonter la Tamise en bateau. Et c'est trois bras cassés. Et ils sont accompagnés d'un chien qui, en plus... des siennes.
Qui s'appelle Montmorency.
Et qui s'appelle Montmorency.
Qui est une ville du Val d'Oise, oui. Accessoirement.
Et c'est le nom du chien, oui.
Et puis il y a une folie douce et un charme britannique, comme si on nous prenait par la main vraiment dans le but de nous divertir, de nous amuser. C'est très bon enfant comme humour et absurde, charmant. Il n'y a pas de cynisme.
Exactement, c'est frais.
Et vous nous avez choisi un petit passage qui concerne justement le chien Montmorency.
Oui. Je vous le lis ?
Ah bah avec plaisir.
Alors. Montmorency était de la fête comme de juste. L'ambition de Montmorency dans la vie, c'est de se mettre à la traverse et de se faire crier dessus. S'il parvient à se faufiler où l'on n'a pas spécialement besoin de lui, à être un parfait brouillon et à exaspérer le monde, et à ce qu'on lui envoie des objets à la tête, il considère alors comme n'ayant pas perdu sa journée. Faire en sorte que quelqu'un trébuche sur lui et le maudisse pendant une heure d'affilée, voilà son ambition la plus haute et son but. Et quand il l'a atteint, sa fatuité devient tout à fait intolérable. Et il fallait se poser sur les choses dont précisément on avait besoin pour les emballer. Il était travaillé par l'idée fixe que chaque fois que Harris ou George allongeaient la main, c'était pour atteindre son nez froid et humide. Il enfonça la pâte dans la confiture, il dispersa les petites cuillères, il joua au rat avec les citrons et sauta dans le panier et en étrangla trois avant que Harris pût le coiffer de la poêle à frire.
Il est très personnifié dans le livre Montmorency. Et en fait, c'est un fox terrier qui se bat contre tous les animaux qu'il trouve sur son chemin. Et Jérôme K. Jérôme disait l'avoir modelé sur les pulsions inconscientes des Britanniques qui ont, je le cite, dans leur personnalité intime quelque chose du chien.
D'accord.
Voilà. Ça a été un succès fou à sa sortie, ce livre, et en même temps très très critiqué.
Ah bon ?
Notamment pour l'emploi des termes argotiques. Il y avait une critique dans le Morning Post qui disait « Un exemple des tristes conséquences à attendre de l'excès d'éducation parmi les classes inférieures. »
Ah ouais, d'accord.
Ouais, c'était juste une autre époque aussi.
Il y a un côté Milou aussi, avec Montmorency.
Mais il fait un peu plus de bêtises que Milou, peut-être.
Oh, il en fait pas mal, Milou, quand même.
Mais Milou peut, à nouveau, peut être utile, parfois. Montmorency, moyennement. Alors, Trois hommes dans un bateau, de Jérôme K. Jérôme. Il est temps de découvrir vos sérums musicaux. Voici le premier, When You Say Goodbye, de Jerry Arnold.
Cry now, for I had cried then. You can be lonely now, like I was when you said goodbye.
À la mélancolie sur France Inter dans le jukebox psychique de Mathieu Sapin qui vient de nous faire entendre When You Say Goodbye du crooner de rockabilly américain Jerry Arnold enregistré vers 1957. C'est une chanson sur laquelle vous n'arrivez pas à être chagrin et c'est surtout une chanson sur laquelle on n'a absolument rien trouvé. Il y a une page Wikipédia en allemand et c'est tout.
Ah bon ? Ouais. D'accord. Ben ouais, moi je me contente de l'écouter, donc je sais pas trop effectivement ce qu'il y a derrière ce Jerry Arnold. Moi, au début, j'avais l'impression que c'était une espèce d'Elvis, mais c'est pas Elvis, c'est un autre, c'est Jerry Arnold.
Il a quelques qualités tout de même.
Mais oui.
Vous l'écoutez souvent cette chanson ?
En ce moment, ouais.
Bon alors on change de registre.
Choc, truc qui raille le pare-choc. Chaque attaque te plaque, rejoins le stup, les rois du chic-chic. Chouk-chouk, musique, écoute le crew quand tu fais crac-crac. Crasgar, capac, t'arraches la langue comme un tic-tac. Fuck les rockstars, bienvenue dans mon cauchemar. Pas de pull en cachemire, j'étouffe comme le 4-car. Hardcore, pauvre tocard, j'tue comme un persévère. Faut que ce truc persévère, putain mec, check sévère. Pas de ukulélé, pas de bebop loula. Le croustille dans ta bouche comme une cracotte ou un granola. Ma face de gogol fait trop flipper les fous. Mais ça me ramène plein de cagoles quand j'enfile cette cagoule. Le stupéflip crew. Et si la vie te saoule et si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupéflip crew.
2017, The Antidote sur le quatrième album du groupe Stupéflip,
ouais.
Stup Virus. On entend, je crois, je vais prononcer n'importe comment, King Ju. Ouais, Julien Barthélémy, le leader du groupe qui utilise différents types de voix.
Ouais, c'est ça.
Alors, dedans, on peut entendre « Ma face de gogol fait trop flipper les foules, mais ça me ramène plein de cagoles quand j'enfile cette cagoule. » Ça résume un peu l'esthétique du groupe.
Oui, alors moi je les écoute depuis, je crois que c'est leur quatrième ou cinquième album, mais il y a une espèce d'invention et de... Ils sont, comment dire... La frustration, c'est un moteur d'écriture, apparemment, pour eux, et que je trouve... Qui fonctionne bien. Et non, il y a des choses qui me font penser aussi à ce que je vais chercher quand j'ai dessine Super Murgeman, justement, un truc très très régressif, mais joyeux quand même. Et ils sont pas du tout politiquement corrects.
Alors ils sont trois, Julien Barthélémy, Stéphane Bélanger, Jean-Paul Michel, et ils ont plein de pseudonymes tout le temps.
Oui, ils font croire qu'ils sont un groupe énorme.
C'est ça, il y a Cadillac, alias Quasimort, ou le vieux MC Salo, c'est Monsieur Michel, Jean-Paul III, Chita, Chitadini, oui. Sadomodo, Sandrine Cacheton.
Ils sont très très créatifs. Et puis il y a aussi tout un... Comment dire, graphiquement aussi, c'est très, ça s'accompagne, leur livret, tout ça, c'est très travaillé.
Ça fait combien de temps que vous écoutez ce groupe ?
Je sais pas, 4-5 ans.
Vous l'avez découvert comment ?
C'est un copain qui m'a fait écouter. Je trouvais ça très débile, mais ça me plaisait. Mais il y a une énergie, encore une fois. C'est un truc, d'énergie qui. Parce que quand on dessine, ce qui est bien, c'est qu'on peut écouter de la musique. Ou la radio. Ou France Inter.
Évidemment, France Inter. Et vous vous perdez dans la page, il paraît. En écoutant de la musique, en dessinant. J'ai lu ça dans une interview.
Il y a un truc hypnotique, ouais.
En parlant de choses hypnotiques, la bande-son de l'installation de 1997 de la vidéaste suisse Pipilotti Rist,
oui.
Ever is Overall, réalisée pour la Biennale de Venise. Qu'est-ce qu'on voit dans cette vidéo, Mathieu Sapin ?
Mais c'est une installation. Moi, j'avais découvert ça à Karlsruhe, en Allemagne, lors d'un voyage de classe, quand j'étais donc étudiant aux Arts Déco. Et c'est complètement... tripant, hypnotique. Il y a deux pans de mur qui représentent une espèce d'installation vidéo tantôt abstraite, tantôt... ça bouge, il y a plein de couleurs, c'est comme une espèce de kaléidoscope géant avec une musique comme ça planante et on est dans des poufs. Et il y a un moment donné, on perd toute notion du temps et puis de l'espace. Et moi, j'avais été c'était un très très bon moment, un très bon souvenir. Donc... voilà, je conseille ça pour les gens qui veulent oublier leurs soucis.
C'est vrai que tout ce qui implique un pouf est toujours un bon remède à la mélancolie. Voilà. Personne ne l'a choisi jusqu'à présent, je suis assez étonnée. Mais alors, dans la vidéo, il y a quelque chose d'assez frappant.
Ouais.
C'est qu'on voit une jeune femme souriante, habillée comme une princesse. Ça pourrait être romantique, tout ce qu'on veut. Et en fait, elle est armée d'une hache avec une fleur au bout qui ressemble à un épi de maïs ensanglanté.
Ouais.
Et elle casse... sous le regard bienveillant de policiers, des vitres de voiture au ralenti.
Ah ouais. Alors ça, je me souvenais pas de ça.
Mais, est-ce que c'est ça la vidéo ?
Mais après, c'est vrai que, moi j'aime bien aussi quand il y a toujours un peu Tout à l'heure, on n'a pas parlé de... Je fais un énorme bond, hein, mais on n'a pas parlé de la Comtesse de Ségur,
oui,
que j'ai adapté,
oui,
aussi, Les Malheurs de Sophie. Et moi, c'est vrai que j'aime bien quand il y a un peu de facettes, quoi, de couches. Le côté un peu fleur bleue, mignon, joli, et puis quelque chose qui gratte beaucoup plus.
Sadomasochiste de la Comtesse de Ségur.
Par exemple. Mais donc, c'est aussi sans doute chez Pupil Othériste, mais c'est dans plein d'histoires. Et c'est comme ce que je racontais tout à l'heure sur l'enfance, des histoires qui ont l'air enfantines et qui en fait contiennent quelque chose de beaucoup plus urticant, quoi.
On a 2 minutes pour parler d'un bonus.
Ouais.
Une œuvre d'art, c'est le pèlerinage à l'île de Cythère ou l'embarquement pour Cythère, ah oui, de Watteau, réalisé en 1717.
Ouais.
Je rappelle le contexte historique.
Ouais.
On est dans une période où il y a eu, c'est la fin du règne de Louis XIV. Ouais. Tout est très austère et là d'un coup il y a une insouciance, une douceur de vivre qui surgit dans les années régence et les élites aristocratiques et mondaines se sentent libres, font des fêtes galantes, des choses libertines,
ouais,
au sens noble du terme. Et d'ailleurs dans,
ouais,
tous les sens,
ouais,
du terme. Et ce tableau, je vous laisse nous le décrire rapidement et nous dire ce qu'il vous évoque.
Donc on est sur une espèce de rive et on voit au loin une île, donc Cythère, qui est une île un peu, pleine de promesses, quoi. On sent qu'il va se passer des trucs incroyables sur cette île. Et il y a toute une troupe de beaux jeunes gens et jeunes femmes qui s'embarquent donc sur des espèces de bateaux, mais c'est plus des barques. Et il y a un côté un peu paradisiaque, un peu
badinage.
Badinage un peu fripon, mais aussi on se sent bien dans ce tableau. Et donc j'ai envie d'y entrer, quoi.
Eh ben restons-y. Je vous propose d'y rester. On reste dans ce tableau.
Ouais, il est au Louvre, je crois, si on veut le voir en vrai.
Oui. On y reste pendant un an à peu près.
Voilà.
Voilà, à l'abri du réel. Merci beaucoup, Mathieu Sapin,
merci,
d'être venu dans cette émission. Je rappelle que là, vous êtes en plein montage de votre premier long métrage, Le Poulain, écrit avec la collaboration de Noé Debré et avec Alexandra Lamy et Finnegan Oldfield. Le titre de votre dernière bande dessinée documentaire, c'est Gérard, 5 années dans les pattes de Depardieu, et c'est publié chez Dargo. Chers auditeurs, la programmation musicale, Les Remèdes sont sur le site de l'émission. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. J'espère que vous êtes aussi joyeux qu'un potiron fraîchement diplômé et admiré par ses impassibles pairs. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h en compagnie du metteur en scène Julien Gosselin. Je vous souhaite à tous non pas un bon réveillon, car il est rarement formidable, mais une très bonne nouvelle année, avec quelques heures d'avance. Je suis ravie de vous retrouver dimanche prochain parce que ça signifie que nous aurons survécu à ce soir. Prenez soin de votre spleen.